9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Salam alaikum mes camarades, maître Serhan est ravi de vous retrouver pour la 12e émission de l'année 2022 et la première émission durant le Ramadan. Alors, comme nous sommes en période de Ramadan et pour m'assurer que ma chronique ne heurte aucunement la sensibilité d'une partie de nos auditeurs, je vous ai soumis, comme convenu mon cher Philippe, ma douce chronique afin que vous puissiez vous assurer en personne que je suis dans le respect de la moralité souhaitée par les ayatollahs. Bon, je dois reconnaître que le Ramadan perturbe quelque peu mes habitudes. Ben oui, normalement tous les vendredis, j'ai le droit à un petit chocolat que vous avez la gentillesse de m'offrir. Tous les vendredis, j'attaque ma chronique avec plein d'entrain, de fouille. Et là, je me sens un peu mou, normal. Il faut que mon corps s'habitue à cette nouvelle situation radamanesque. Il faut que mon corps intègre que Maître Serra ne commencera pas sa journée avec son chocolat. Résultat, j'ai mal au crâne dès le matin et la journée, ça continue. J'ai, je crois qu'on peut le dire, un peu la tête dans le cul. Mais ça ne va pas durer d'ici. Ça ne va pas durer d'ici à lundi. Mon logiciel corporel sera probablement reconfiguré. Bon, Ramadan ou pas, examinons l'actualité de la semaine. Ultime ligne droite pour nos politiques qui ne cessent de courir partout pour nous raconter tous leurs bobards afin d'être élus. N'oubliez pas, on vote dimanche. Hein. Soyez un bon citoyen. Déplacez-vous. Votez pour qui vous voulez, mais votez attention quand même à votre voix. Il semblerait que Marine Le Pen inquiète quelque peu Macron. Eh oui, c'est ça, d'avoir été hors sol pendant la campagne présidentielle, d'être tellement sûr de sa réélection qu'on ne fait plus d'efforts auprès des Français. Et puis la dernière mesure décidée par le gouvernement qui pourrait sembler anodine, mais qui ne l'est pas, à savoir accueillir gratuitement les enfants ukrainiens dans les crèches, alors qu'il faut parfois réserver une place à la crèche quand t'apprends que ta femme est enceinte, a de quoi donner envie de voter extrême droite. Pour ma part, je choisirais Poutou. J'aime bien ce type, il peut compter sur moi, sauf que je ne vote jamais. Enfin, avant de vous laisser, je ne pouvais pas ne pas évoquer la dernière proposition de Sandrine Rousseau. Vous voyez qui c'est, hein, c'est l'écologiste qui a perdu la primaire contre Yannick Jadot. Et heureusement que ces gens-là, comme dirait Jacques Brel, n'auront aucune chance de devenir président. Donc Sandrine Rousseau a eu une idée toute m'couda. Elle a proposé de sanctionner judiciairement les hommes qui ne partageraient pas les tâches ménagères avec leurs femmes. Qu'est-ce que tu veux foutre avec des personnes qui font ce type de proposition? Il y a des gens dans ce pays qui crèvent de faim, qui n'ont pas de domicile, qui n'ont pas de boulot. Les prix explosent dans tous les domaines et la priorité, ce serait de sanctionner judiciairement les hommes qui ne partagent pas les tâches ménagères. Délire de petite bourgeoise. Allez, je vous laisse méditer sur cette proposition. Je vous invite à appeler le 01 53 48 3000 pour poser vos questions. Émission sous le contrôle de celui qui aurait dû se présenter aux élections présidentielles. Monsieur Philippe Robichon, à vous maestro.
Et par parenthèse, le président de la République française sera l'invité d'Adil Farkan ce soir.
C'est extraordinaire.
Voilà, si vous voulez poser vos questions au président de la République, je pense que d'abord on va lui repasser votre chronique.
Ça va lui faire plaisir.
Je pense que c'est bien, voilà.
Mais justement, ça va peut-être le rebooster tout ça. Peut-être que grâce à moi, il va être réélu.
Ah ouais, hein? Vous êtes comme ça, vous.
Mais ce serait peut-être pour moi un poste dans un petit ministère, pourquoi pas.
Maître Serhan, répétez après moi, Ramadanesque.
Ramadanesque.
Ouais, vous avez dit radamanesque.
Ah bon?
Ouais.
Non, je crois pas.
Mais si, vous avez dit dyslexié.
Alors attendez, c'est grave ce que vous dites. Et vous savez quoi?
Ouais.
Je l'ai même écrit comme ça. C'est pire que tout.
Mais non, mais c'est pour ça. Je suis vieux, mais pas sourd, maître
Serhan. C'est vrai.
Ouais.
Merci. Bon. Ça veut dire que vous êtes attentif en tout cas.
Ah, je suis très
attentif. Ça me fait plaisir.
Très attentif à tout ce que vous dites.
C'était un piège. C'était justement pour voir si vous étiez attentif.
C'est-à-dire que je vous entends de tellement peu cette année que.
Bah pourquoi vous dites ça?
Bah parce que. Vous nous manquez le soir, Maître Serhan.
Sérieux?
Ah oui, tous les soirs avec l'imam Abdelali, Ramadan & Co. Et vous n'êtes pas là.
Oui, mais alors pourquoi? Parce que j'ai été vexé là, vendredi dernier. Qu'est-ce que vous avez dit? Si les auditeurs veulent que Maître Serhan soit présent, appelez. Qui a appelé? Pas une personne a
pas
appelé.
On est peu de choses. Non, mais vous avez raison, pas une.
On est peu de choses.
Pas une personne a dit on veut Maître Serhan cette année.
Voilà.
Maintenant, il pleure, il regrette.
Bah voilà. Ouais. Bah, voilà. Peut-être je passerai. Inch'Allah.
Ah ouais, vous êtes comme ça, vous. Je sais pas, personne ne dit rien, mais je sais pas si vous avez vu le prix de tout ce qui compose une table de Ramadan, mais c'est Ramadan plus 30% cette année.
C'est exactement ça.
Non, mais c'est un truc
de folie. Bien sûr.
Personne ne dit rien.
Ouais. Non, mais c'est pour ça que je lui dis, moi, ce fameux mouvement des.
L'huile, il n'y a plus d'huile.
Hein. Ah non, mais c'est.
Il n'y a plus d'huile, il n'y a plus de farine, la tomate, alors 5 euros. le kilo, hein, entre 4,95 et 5 euros. On parle de tomates. Ouais. Vous voyez,
bah, le truc, c'est qu'il faut un vrai budget si vous voulez, entre guillemets, manger correctement et avoir.
C'est un truc de fou. Et personne ne dit rien.
Non, mais c'est ça qui est fou. C'est pour ça, je vous disais, ces histoires de gilets jaunes à l'époque où on augmentait de quelques centimes l'essence et c'était la guerre en France. Et puis là, tout explose et les gens manifestement acceptent. Bon, bah, tant qu'ils acceptent, les prix vont continuer d'augmenter. Mais c'est vrai que ça devient un peu fou. On voit bien qu'il y a plein de personnes qui restent à la marge et qui, ramadan ou pas, peuvent plus manger à leur faim. Mais c'est vrai que ça n'a pas l'air d'affoler les foules.
Moi, je sais que les associations sont en train de me dire que d'habitude, il y a des collectes qui sont organisées pendant le mois du ramadan et que là, cette année, ils ont du mal. Ils ont du mal à faire des collectes pour nourrir les gens le soir, hein, franchement. Hein. Maître Serra, nous allons évoquer une profession dont le seul nom fait frémir.
Bah oui.
Vous voyez, c'est huissier de justice.
Les fameux huissiers de justice. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait frémir parce qu'on en voit que, alors d'abord un côté entre guillemets négatif, mais il faut savoir que si c'est négatif pour Monsieur X, ce sera toujours positif pour Monsieur A, puisque c'est toujours une personne qui demande à un huissier d'intervenir, donc dans son intérêt, et qui va, on va utiliser le terme, taper sur la tête d'une autre personne. Alors c'est vrai qu'ils sont toujours mal vus, on a toujours...
Déjà quand vous voyez arriver l'huissier, vous avez une lettre de l'huissier, ouais. Bon, ça sent en général pas super bon.
Non, à partir du moment où vous avez un courrier de l'huissier, c'est pas la peine de jouer l'autruche, c'est que derrière, d'abord il y a une procédure, et puis pour pouvoir, entre guillemets, se préparer à minima, faut prendre connaissance alors du courrier si ça vous a été remis en main propre évidemment, mais si vous êtes pas là, l'huissier va laisser un avis de passage. Faut aller récupérer ce courrier. Ça sert à rien de faire semblant parce qu'en règle générale, ça n'annonce d'abord rien de bon. Et si vous ne faites rien, il y a ce rouleau compresseur de l'huissier de justice qui va continuer. Souvent, les personnes me disent soit je retire pas mon recommandé, soit le document chez l'huissier, je vais pas le chercher. Ça n'arrête pas la procédure. Donc, il vaut mieux aller récupérer le document, même si, a priori, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Mais au moins, vous saurez à quoi vous en tenir.
Quel est le statut de l'huissier de justice?
C'est un officier de police judiciaire, c'est-à-dire que...
Mais il n'est pas de judiciaire et civil?
Oui, alors dans le sens large, c'est-à-dire les actes d'huissier font foi, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas les remettre en cause, en tout cas un juge est obligé de prendre ça en considération, et pour les remettre en cause, c'est une procédure pénale très particulière, il faudrait en gros indiquer que l'huissier a menti, donc je connais aucun huissier de justice qui va jouer sa carrière sur ce point-là, donc c'est un acte officiel, un acte authentique, et quand vous avez encore une fois ce type de document, la partie adverse ne peut pas remettre en cause ce document de l'officier ministériel par, je ne sais pas, par exemple, le témoignage de votre voisin, le témoignage d'un membre de la famille, ça, c'est pas possible. À partir du moment où vous avez un document d'un huissier de justice, le magistrat considère que tout ce qui est dit par l'huissier de justice est de facto vrai. Donc c'est un document qui est effectivement extrêmement important et qu'on ne peut pas, sous procédure très exceptionnelle, remettre en cause à la légère. C'est ce qui fait que tout le monde a déjà entendu parler de ça, hein, ces fameux constats d'huissier. Alors ça, encore une fois, ça sert à quoi? Ça sert à cristalliser une situation. Vous avez un dégât des eaux, vous demandez à un huissier de justice d'intervenir, il vous fait un constat, votre compagnie d'assurance ne pourra pas dire vous avez menti, vous avez exagéré, il y a un huissier qui vient constater les faits. L'un des conjoints doit récupérer les enfants à la suite d'une décision de justice et puis ça ne se fait pas, vous pouvez demander à un huissier de justice d'intervenir et là encore revenir devant le magistrat et le conjoint indélicat se fera taper sur la tête puisque vous avez un huissier qui constate que... Donc c'est vrai que recourir à un huissier de justice, c'est extrêmement important. Et c'est ce que je vous disais en introduction, c'est-à-dire que il y a forcément une partie qui va être insatisfaite, mais on voit bien là le rôle de l'huissier de justice, c'est pas seulement vous taper sur la tête, c'est quand même intéressant. Pareil, si vous avez une dette à récupérer, eh ben vous devez demander à un huissier de justice d'intervenir et de faire quoi? Alors d'abord, de faire ce qui s'appelle la signification d'une décision, c'est-à-dire pour que la décision de justice soit officielle, et souvent on a des clients qui ont du mal à comprendre ça. Lorsqu'un juge rend une décision, alors on a une belle décision, c'est écrit noir sur blanc, mais pour qu'elle soit exécutoire, il faut qu'on demande à un huissier de justice.
Assez obligatoire.
Assez obligatoire.
Ah oui, sinon, ça s'applique pas de fait.
Non, c'est toute la difficulté. C'est-à-dire que les avocats, nous, on a affaire quotidiennement aux huissiers de justice, puisqu'on en demande de faire, on appelle ça des significations, pour que ma décision de justice soit officielle, il faut que je demande à un huissier de justice d'intervenir. Mais si j'ai juste ma décision de justice, ou même si je l'envoie en recommandé à la partie adverse, ça n'a pas plus de valeur que ça. Donc on demande à l'huissier de justice d'intervenir, et à partir de là, ça doit s'appliquer. Et si la partie adverse ne veut pas exécuter la décision, on peut demander à l'huissier de justice de faire, on appelle ça, toutes les mesures d'exécution, c'est-à-dire éventuellement procéder à des saisies sur des comptes bancaires ou à des saisies de biens mobiliers. Donc l'huissier de justice, même si on en a toujours une image négative, est indispensable, et en particulier quand vous êtes considéré comme débiteur.
Alors, mais finalement, on connaît mal l'étendue du rôle d'un huissier de justice.
Il intervient dans énormément de domaines. Encore une fois, quand on est avocat, on a affaire à des huissiers de justice tous les jours. Lorsque je vais engager une procédure de divorce, l'avocat prépare une assignation. L'assignation, encore une fois, je peux pas l'envoyer moi tout seul à la partie adverse. Donc je l'envoie à un huissier de justice, je lui demande de se déplacer chez madame, chez monsieur, peu importe. C'est ce qu'on appelle la signification d'une assignation. Lorsque le jugement est ensuite rendu, je demande à nouveau à l'huissier de justice d'intervenir à la même adresse et de signifier, c'est-à-dire de dire à monsieur ou à madame, voilà, le magistrat a rendu une décision. Donc, à minima, dans une procédure, l'huissier de justice intervient au moins deux fois.
Deux fois. Qui paye ?
C'est toujours le client qui nous mandate. C'est-à-dire que je demande à l'huissier de justice d'intervenir. L'huissier de justice m'envoie au préalable la facture qu'on répercute sur monsieur, sur madame pour faire la signification. Et j'en reviens à ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a des clients qui nous disent, ah ouais, mais quand même, est-ce qu'on peut le faire sans l'huissier? Non, je peux pas, on ne peut pas le faire sans l'huissier. Puisqu'encore une fois, même si j'ai une belle décision, sauf si la partie adverse décide spontanément d'exécuter la décision sans signification. Mais la nature humaine étant ce qu'elle est, je connais personne pour faire ça. Et d'ailleurs, on peut même aller plus loin. Si demain, vous devez, la partie adverse doit régler une pension alimentaire et que la partie adverse ne règle pas, on a des clients qui nous disent je vais aller au commissariat déposer plainte pour dire que le monsieur, on va utiliser monsieur parce que très souvent ce sont les hommes qui sont condamnés aux pensions alimentaires, que monsieur ne règle pas la pension alimentaire. La première question qui est posée par le policier qui vous reçoit, c'est de dire, est-ce que vous avez un jugement? Oui. Est-ce que vous l'avez fait signifier? C'est-à-dire, est-ce que vous avez demandé à un huissier de justice d'intervenir? Si vous dites non, l'infraction n'est pas constituée, ça s'arrête là. Donc vous ne pouvez pas vous plaindre alors que cette mesure qui rend exécutoire la décision n'a pas été faite. Donc il faut toujours se méfier de ça. Donc quand un avocat vous dit, il y a, en dehors de l'avocat, il y a un autre personnage qui intervient, c'est l'huissier de justice, c'est pas juste pour le plaisir de faire intervenir un huissier de justice, c'est parce que c'est obligatoire et c'est indispensable pour la procédure.
Bon, ça coûte cher un huissier ?
Alors, il y a des histoires de distance et autres, mais dans les tarifs. Alors d'abord, il y a pour certaines missions les montants sont réglementés. Donc c'est pas l'huissier de justice tout seul qui décide de fixer son prix. Mais quand on parle de signification, ça va de 75 à parfois 150 euros. Et puis si vous demandez à l'huissier de justice de faire ce qu'on appelle une signification en urgence. Parce qu'on a, quand on fait des significations, des timings à respecter, ça peut parfois aller jusqu'à 200, 270 euros. Oui.
Les huissiers interviennent également dans les successions, d'ailleurs.
Absolument. Encore une fois, ils ont un panel d'intervention extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils interviennent dans les successions. Et je le redis, c'est important. Vous voyez, on a eu un dossier qui est rentré il n'y a pas si longtemps que ça, où on a une succession, entre guillemets, qui venait à peine de démarrer, mais il n'y a pas eu d'ouverture officielle. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a les enfants qui essaient de récupérer tel ou tel bien au domicile du père qui est décédé. J'ai l'un des enfants qui a fait intervenir un huissier de justice pour faire constater qu'effectivement, puisque alors il a été, comme dirait, très intelligent, puisqu'il avait d'abord pris en photo tous les éléments et ensuite il a demandé à l'huissier de justice de venir constater que des éléments étaient manquants. Donc les huissiers de justice interviennent dans des domaines extrêmement larges. Et je le redis, Évidemment, pour certains constats, ça coûte des sous, mais ça reste un investissement. Et en dehors de ça, je le redis, même si vous faites intervenir votre voisin, un membre de la famille qui vient témoigner, ça n'a évidemment pas la même, en droit on dit la force probante, la même valeur qu'un constat d'huissier. Le constat d'huissier, c'est un investissement.
Maître Serran, sur Beurre FM, c'est le vendredi, y compris les vendredis du mois de Ramadan. Vous posez vos questions au standard 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Et Maître Serran qui est avec nous tous les vendredis et qui répond à vos questions juridiques au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. Et nous avons Karima qui a une question à vous poser, Maître Serran. Karima, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Bonjour Karima.
Bonjour Karima.
Bonjour. Je voudrais poser une question. C'est par rapport au divorce de ma mère.
Oui.
Donc, elle est divorcée après 35 ans de mariage. Et donc, mon père, il a profité de prendre le divorce ici, la décision de divorce ici. Il s'est divorcé en Algérie sans qu'elle signe cette décision.
D'accord. Donc, vos parents habitent sur le territoire français, mais votre père a engagé une procédure au pays.
Il a fait la procédure ici.
Ah, d'accord. Après, donc, il a d'abord engagé une procédure sur le territoire français.
Exactement.
Mais qui n'a pas été jusqu'au bout, ou elle a été jusqu'au bout, la procédure en France?
Elle a été jusqu'au bout. Ils ont pris une décision que ma mère, elle n'est pas vraiment accepté cette décision, mais voilà.
Enfin, le divorce a été prononcé.
Oui.
D'accord. Et donc, quelle est la nature de votre question?
Et donc, en Algérie, est-ce qu'ils ont... parce qu'ils ont une petite maison là-bas, et donc, elle n'est pas actée. Et donc, ma mère, elle voulait prendre la moitié de cette maison, mais mon père, il ne voulait pas partager cette maison.
Mais la maison est au nom de qui, madame?
De personne, parce qu'elle était attribuée... Oui, des deux, normalement.
Il faut se méfier du terme « normalement hein. ». Voilà, parce que... Enfin, là, il y a un acte de propriété, quand même, non?
Non, il n'y a pas. C'est ça, et il est en attente.
Mais en attente de quoi? C'est-à-dire qu'au moment où on se parle...
En attente de décision, parce qu'il est au domaine, donc ils n'ont pas pris décision, est-ce qu'ils vont faire... généralement, il est attribué directement au nom du mari.
Ben, c'est ce que j'allais vous dire. Voilà, la probabilité est forte pour que l'acte de propriété soit formalisé au nom de votre père. Et c'est au nom de votre père, la question ne se pose plus. C'est-à-dire qu'on va considérer qu'il est le seul propriétaire et ça s'arrête là.
Oui. Et là, elle a fait une procédure là-bas en Algérie, mais le juge, il n'a pas tranché, il n'a rien tranché parce que l'acte n'est pas encore...
Oui, mais légitimement. C'est-à-dire qu'un magistrat pourra se poser la question à partir du moment où il aura un document officiel sous les yeux. Ouais. Donc, mais... La probabilité est forte.
Cette maison est attribuée à un monsieur qui est normalement censé marier. Normalement, pour attribuer cette maison, il y a une condition de mariage. Donc, à l'époque, ils étaient mariés. Donc, il a pris le livre de famille. Après, ils ont entamé cette procédure. Mais là, après 35 ans de mariage, ils ont fait cette décision de se divorcer.
Mais sur le territoire français, alors on va laisser l'éventuelle décision au pays, mais de ce que vous me dites, ça sent pas forcément bon concernant cette maison. Mais sur le territoire français, votre maman a travaillé à l'époque ou pas?
Sur le territoire français, oui.
Ouais.
Oui.
D'accord, mais alors je sais pas, il y a quelque chose qui lui a été quand même attribué, ce qu'on appelle une prestation compensatoire ou rien de tout ça?
Rien de tout ça. Même en Algérie, elle a pas signé le divorce et elle est divorcée, mais le juge, il a attribué juste 3 millions de dinars.
D'accord. Alors, en Algérie, je suis pas très surpris par la nature de cette décision. En règle générale, voilà, sur un plan financier, on s'en sort un peu mieux quand le divorce est prononcé sur le territoire français, mais même sur le territoire français, elle a rien obtenu d'important ou de conséquent.
Ouais. Alors, il y en a qui...
Bon, Et elle a contesté cette décision ou pas? Est-ce qu'elle a interjeté appel?
Elle a contesté, mais ça n'a rien donné aussi.
Bon, bah donc il n'y a pas d'autre solution. C'est-à-dire que si vous me dites que le jugement sur le territoire français est, comme on dit, définitif, c'est-à-dire si elle a fait appel et que la cour d'appel, madame, a confirmé la décision du tribunal judiciaire, du tribunal de première instance, donc sur le territoire français, c'est plié. Mais de ce que vous me dites et de ce qui se passe en Algérie, à partir du moment où l'acte laisserait entendre que la maison est au nom de monsieur, elle n'obtiendra rien non plus.
D'accord.
Après 35 ans de mariage, hein, c'est même.
Ouais. Oui, c'est, ah oui, non, non, mais c'est... Mais alors après, il y a 35 ans.
Et en plus, ans. Elle a pas de. Elle a rien, donc.
C'est pour ça que je vous dis, il faut quand même miser plus sur ce qui peut se passer sur le territoire français. Maintenant, on peut avoir 35 ans de mariage, mais si vous me dites que votre maman a travaillé durant toutes ces années de mariage, et puis, alors, je sais pas combien elle pouvait éventuellement gagner, je suis pas en train de dire que la décision des autorités françaises est injuste. Le magistrat se prononce en fonction de la situation des uns et des autres. Quand on est marié et que monsieur et madame travaillent, il n'y a aucune raison de verser une prestation compensatoire à madame, par exemple. Aucune.
Mais pourtant, elle perd du niveau de vie.
Oui, elle perd du...
Cette compensation...
C'est pour dire, en gros, mais attendez, moi, si on se sépare, je vais me retrouver en difficulté. La meilleure des hypothèses, c'est madame qui entre guillemets n'a jamais travaillé, qui s'est consacrée à l'éducation des enfants, qui s'occupait de la maison, qui s'occupait de monsieur, et puis il y a que monsieur qui travaille. Ou parfois on a des clients qui nous disent, mais même quand je voulais travailler, monsieur ne voulait pas. Donc là, quand vous dépendez exclusivement du salaire de monsieur et que demain c'est monsieur qui prend l'initiative du divorce et qui dit maintenant c'est terminé, effectivement vous tombez de haut. Mais à partir du moment où madame a travaillé ou elle a toujours eu son salaire, son niveau de vie est quand même maintenu, puisqu'elle aura quand même, qu'on le veuille ou non, entre guillemets, un peu moins de dépenses, puisque il y aura monsieur qui versera aussi une pension alimentaire, encore une fois, souvent c'est monsieur, pour les enfants. Donc il n'y a pas forcément prestation compensatoire, on va dire automatique, dans un divorce. Il faut vraiment...
Quand vous quittez l'appartement ou la maison que vous habitez, enfin, vous voyez... Alors,
honnêtement, pour être clair, ça peut arriver, mais très souvent, dans 90% des cas, c'est monsieur qui doit plier ses affaires, les mettre dans sa valise et partir, sincèrement. Et parfois aussi, monsieur quitte le domicile et il est aussi chargé de régler durant la procédure, mais les procédures peuvent durer longtemps, parfois c'est un an et demi, deux ans, il est chargé de régler le loyer ou le crédit. Donc on a plein de dossiers où ça se passe comme ça. Donc très souvent, qu'on le veuille ou non, encore une fois, c'est monsieur qui est un peu perdant dans ce type de procédure, même quand il prend, alors qu'il prenne ou qu'il prenne pas d'ailleurs l'initiative. Mais c'est un réflexe. Alors je dis pas que c'est injuste ou autre, parce que, en particulier quand vous avez des enfants, le magistrat, avant de faire plaisir entre guillemets à monsieur ou à madame, raisonne dans l'intérêt des enfants. Et quand les enfants restent avec madame, évidemment, on va pas dire à madame, bon, vous prenez les enfants et puis partez et débrouillez-vous. C'est légitime de laisser les enfants dans leur cadre, dans leur contexte, dans leur chambre. Et donc, encore une fois, très souvent, c'est monsieur qui doit quitter le domicile. Ça, c'est une réalité. C'est pas dire, pourquoi le monsieur serait désavantagé ou pas. C'est une réalité. Moi, je le vois dans mes dossiers. Et en particulier, quand vous êtes l'avocat de monsieur, on le voit bien dans nos écritures. Il faut quand même ramer deux fois plus si vous sollicitez le domicile conjugal, la résidence des enfants. Ou alors il faudrait que, je dis n'importe quoi, mais que madame soit considérée entre guillemets comme folle, dangereuse. Enfin voilà, il faut que le dossier du côté de madame soit très sale ou très sali pour que le magistrat puisse se dire, peut-être que monsieur pourrait solliciter et la garde des enfants et pourquoi pas le domicile conjugal. Mais ça arrive pas si souvent que ça, faut le savoir.
Votre maman a travaillé, Karima?
Oui, elle a travaillé ici.
Elle a dû déménager ou pas?
Elle n'a pas pu travailler, mais ici, elle a travaillé. Pardon?
Elle a dû déménager ou pas?
Ici.
Mais là, le domicile, qui l'a conservé?
Ils ont changé carrément, les deux.
Ah d'accord, voilà, donc après c'est un choix de l'un et de l'autre.
Oui,
Mais encore une fois, c'est pas surprenant. Hein. C'est pas surprenant le fait de qu'elle n'ait pas obtenu de prestations compensatoires, parce que je le redis, ça concerne très souvent le couple quand il y a que monsieur, encore une fois, très souvent c'est comme ça, que monsieur qui travaille. Et là, évidemment, et c'est légitime, on peut pas dire à madame, bah écoute, là je vais te quitter, et puis madame se retrouve dans toutes les difficultés financières du monde. Donc là, la loi est bien faite. Là, c'est normal que monsieur soit qu'on lui tape au portefeuille. Mais quand dans un couple, les deux travaillent, évidemment, le magistrat prend ça en considération. On considère que, en tout cas, le juge a dû considérer que votre maman pouvait subvenir à ses besoins. Voilà, Karima.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Pour votre question. Vous avez des questions à poser à Maître Serran. Il y répond dans un instant à vos questions au standard. 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Et Maître Serran qui est avec nous, vous posez vos questions juridiques à Maître Serran au 01 53 48 3000. Mohamed est avec nous. Mohamed, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour à vous deux. Je vous appelle car j'aurais une question. Il m'est arrivé une petite mésaventure il y a quelques jours en voiture. Donc j'ai eu une altercation avec un monsieur. Cette altercation a un petit peu dégénéré, alors heureusement pas physiquement, mais verbalement, c'était assez violent.
Et, c'était pendant le ramadan ou avant le ramadan?
Non, c'était avant.
Après, ça s'explique, mais avant, on peut.
Voilà, alors donc c'était bien avant. Et en fait, donc ça a été verbal. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce que... alors, je l'ai injurié également, il m'a injurié. Le seul souci, c'est que toutes ces injures étaient purement basées sur mes origines. Ouais. Donc, très racistes. Alors, j'ai été également très très virulent, puisque... Alors, je vais peser mes mots, donc je l'ai également injurié. Alors, ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'une insulte du type enfant de femme de petite mœurs, les mœurs légères, où je vais abondamment...
Fils de bip.
Voilà, c'est ça. Ouais. Et je vais... j'ai l'intention d'abondamment déféquer sur vous. Voilà. Est-ce que ça a le même poids qu'un bougnoul rentre dans ton pays ou salarabe, ou voilà?
Alors, on est sur des... sur une connotation raciste, évidemment, sauf que, vous avez bien compris, ce sera le raisonnement du magistrat, c'est-à-dire qu'en gros... il y a ce qui s'appelle en droit l'excuse de provocation, c'est-à-dire qu'on peut on pourrait vous dire, même si encore une fois ça n'excuse pas ces insultes et ces injures racistes, mais on vous renverra dos à dos. Ah, en disant d'accord, bon, il vous a dit ça, et puis monsieur nous dit que vous l'avez insulté sur ceci ou cela. C'est-à-dire qu'en gros, ce serait presque une excuse pour dire que vous l'avez peut-être un peu trop chauffé, et il est hors de lui. Donc, quand parfois on est hors de soi, on dit un peu tout et n'importe quoi. Donc, je sais pas si c'est pertinent d'entrer dans un conflit, dans une procédure. Vous avez déposé plainte, ou il y a une plainte qui a été déposée contre vous, ou pas?
Non, pas encore. Ouais. J'avais l'intention de déposer plainte parce qu'en fait, ça s'est passé... l'altercation a commencé dans une rue et s'est terminée dans une autre. Et dans cette rue-là, il y avait des gens qui l'ont entendu. Et au début, ça a commencé assez légèrement puisqu'il y avait du monde. Il m'a juste dit, évidemment, d'où vous venez, c'est normal, je comprends mieux. Enfin, et c'est ensuite que ça a dégénéré, quoi.
Est-ce qu'il y a besoin de témoins dans ces cas-là, Maître Serran?
C'est une bonne question, c'est ce que j'allais lui demander. Il y a éventuellement des témoins qui pourraient attester de ça ou pas?
Il y a un témoin qui est prêt à témoigner sur le départ de l'altercation, puisqu'on était à l'arrêt, il a commencé un peu à s'exciter en voiture. Et c'est là qu'il m'a dit, forcément, d'où vous venez, c'est normal. Et cette dame l'a bien entendu et m'a dit, oui, il n'y a pas de problème, je suis prêt à témoigner.
Bon, alors, vous savez, il faut toujours se méfier des gens qui, parfois...
veulent témoigner sur le
coup. Voilà. Au début, on dit, oui, si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. Et puis, quand on leur demande de témoigner, Alors, soit on se présente au commissariat, ça refroidit tout le monde, soit on fait une attestation écrite avec la photocopie de sa pièce d'identité, ça refroidit tout le monde. Donc, il faut quand même se méfier de ça. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas certain éventuellement d'avoir un témoignage, alors il y a un témoignage fiable. Bon, là, vous me dites c'est pas une personne de votre famille, c'est pas une personne qui était dans votre véhicule. Si vous n'êtes pas certain d'avoir ça, c'est pas la peine d'aller déposer plainte. Ce sera votre parole contre la parole de l'intéressé. Mm-hmm. C'est ce que je vous disais. On va vous renvoyer dos à dos. Maintenant, bon, je peux comprendre que ça puisse heurter et que ça puisse blesser. Maintenant, il faut quand même vous attendre, si vous allez déposer plainte, à une procédure qui est jamais agréable. Donc, vous allez déposer plainte, avec la plaque d'immatriculation, ils peuvent retrouver l'intéressé. Mmh. Donc, il y aura probablement une confrontation. Bon, ça va vous bloquer quand même une demi-journée ou une journée. Et ensuite, après cette confrontation, le policier va contacter le procureur de la République pour dire, écoutez, voilà ce qui s'est passé. Ça peut juste se terminer parfois, alors pas forcément une audience devant un tribunal correctionnel, mais avec une sorte d'avertissement en disant, bah monsieur, vous avez dit voilà, sale bougnoule, c'est pas bien ce que vous dites, et puis faut pas le répéter. Donc parfois ça peut terminer comme ça, et c'est un peu décevant pour celui qui a engagé la procédure, beaucoup d'énergie, parfois on fait appel à un avocat. Bon, après, évidemment, voilà, comme dirait, c'est à vous de voir, mais je sais pas si ça vaut le coup d'épuiser votre énergie dans ce type de procédure. Bon,
qu'est-ce qu'on peut obtenir finalement?
Non, mais en vérité, pas grand-chose. C'est-à-dire, imaginons même que vous puissiez vous retrouver devant un quelconque tribunal. Si en plus il est inconnu des services de police, ça terminera là encore devant un tribunal par un avertissement ou peut-être par une amende, mais ça ira pas plus loin. Et puis il faut pas compter sur ce type de procédure pour, même si c'est pas la volonté première des intéressés, pour obtenir des dommages et intérêts. Donc en définitive, c'est beaucoup d'énergie quand même.
Alors pour moi, le simple rappel par une institution est largement suffisant.
Mm-hmm. Enfin, vous avez bien compris, hein, je dis pas que ce sera automatique, c'est sous réserve. Vous avez un témoin ou pas, il a un témoin ou pas, la confrontation. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'à partir du moment où vous allez déposer plainte, parce que même chose, on va pas vous convoquer ou le convoquer le lendemain, c'est-à-dire que ça va rester dans les tuyaux du commissariat, dans les tuyaux du tribunal. C'est une affaire qui peut, si tout va bien, entre guillemets, se régler d'ici parfois peut-être une année. C'est toujours pénible d'avoir, qu'on le veuille ou non, un truc en suspens. Ouais, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand c'est audiencé, on a même parfois des clients qui nous disent bon, d'accord, sur le coup, j'étais énervé, ça m'a fatigué, je voulais que. Mais quand vous avez une audience parfois au bout d'un an, un an et demi, les gens sont souvent passés à autre chose. Maintenant. Et en particulier si vous êtes certain d'avoir cette personne prête à témoigner, vous pouvez évidemment aller déposer plainte.
Ah, c'est certain, parce que c'est pas quelqu'un que je connais personnellement, mais c'est quelqu'un que je connais puisque c'était devant l'école de mon fils et sa maîtresse. Donc,
D'accord.
On peut en faire aussi, Maître Serran, une question de principe.
Ah, mais complètement. On peut en faire une question de principe. Bon, moi, je pars justement du principe que le temps est court et je sais pas si c'est, encore une fois, s'il y avait eu un acte physique, s'il y avait eu bagarre, si vous aviez été blessé, je peux l'entendre et le comprendre. Je me dis, ce sont des mots, ça fait pas plaisir d'entendre sale bougnoule et autres. Et puis bon, et alors, une fois qu'il dit ça, ça va pas bouleverser ma vie. Ah, ce sont des mots qu'on entend parfois. Bon, voilà.
Ça m'a pas bouleversé ou choqué outre mesure. Hein. C'est juste que ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé de manière aussi explicite.
Ouais.
Et donc effectivement, c'est la dernière fois que ça m'est arrivé, j'avais 15 ans.
Oui, mais bah non, mais c'est. Mais vous avez raison. C'est d'abord un terme qu'on n'a pas entendu depuis très longtemps, le terme bougnoule. Et vous avez raison. Quand j'étais moi-même plus jeune, c'est un terme qu'on entendait quasi régulièrement. Ensuite, ce terme a disparu, bah parce que les petits bougnoules sont devenus grands et un peu forts. Donc, il y a aussi cette crainte. Avant, on parlait plus facilement. Mais voilà, on sent bien que le vocabulaire est revenu. Les personnes se sont davantage lâchées. Après, je le redis, moi, je honnêtement, vous savez, on est même moi en qualité d'avocat, on entend parfois ce genre de choses. Qu'est-ce que vous voulez faire ? C'est à sortir de la voiture et mettre un coup de tête et vous retrouver en difficulté ? Ou alors laisser faire, je le redis, moi, à partir du moment où le type, il vient pas, pardon pour l'expression, vous chier dans les pompes sous le menton, bon, je sais pas si c'est utile, même par principe, de perdre tout son temps d'aller au commissariat. Là, ça semble simple, mais vous savez, aller au commissariat, c'est déjà patienter X temps pour être reçu. Ensuite, ils peuvent éventuellement demander au témoin de venir. Alors, le témoin est disponible ou pas disponible. Ensuite, il y aura une confrontation. Ensuite, peut-être une audience. Donc voilà, c'est un investissement de temps. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais si vous êtes prêt à ça, pourquoi pas, bien sûr.
Mais du coup, ça veut dire quand même que voilà, on peut, vous disiez au début, nous renvoyer dos à dos et que les insultes un peu classiques. Soit mise au même
bah oui, monsieur, c'est mais ça on peut l'entendre, c'est-à-dire que si avec la même virulence vous avez également entre guillemets insulté, je dis pas c'est une excuse, mais la justice entre guillemets a ou aurait autre chose à faire, et en gros on va vous renvoyer dos à dos en disant on ne poursuit ni l'un ni l'autre, voilà, il n'y a pas eu encore une fois de violence physique, et puis vous n'êtes pas resté stoïque, c'est-à-dire que le type alors vous insulte, bougnoule et autres, mais vous rétorquez. D'ailleurs, vous nous l'avez dit. Donc, c'est-à-dire que c'est ce que je vais vous dire, mais il y a déjà trop de dossiers et au commissariat et au tribunal pour que un magistrat prenne le temps de se dire bah ouais tiens entre guillemets l'affaire est particulièrement grave ou importante. Dans l'absolu, je le redis, ça fait pas plaisir. C'est pas si grave. Dans ce genre de choses, vous savez, ça peut se régler que par un coup de tête. Voilà. Et après, vous assumez les conséquences. À partir du moment où il n'y a pas eu de coup de tête à un moment, un instant T, classe. Moi, je crois qu'il faut passer à autre chose.
D'accord.
Ou alors, fallait le mettre dans
C'est plus dur
dans le coffre de votre voiture.
Parfois, c'est dur de passer à autre chose.
Alors, le mettre dans le coffre de la voiture, l'emmener au bois et puis le torturer. Éventuellement.
Et Nico est sorti de prison.
Ah alors oui, alors Nico, c'est marrant ce que vous
dites. Sinon Maître Serran a des amis qui peuvent aider.
Ouais, il est sorti de prison, Mskin. Ouais, si. Ouais. En plus, bon, j'avais été
il
le
voir. Il a pris du service.
J'avais
un peu,
été le voir à plusieurs. À
on
plusieurs
peut l'envoyer chez le camarade.
Ah non, mais c'est son boulot à plein temps de toute manière. C'est pas un petit séjour en prison, comme dirait l'autre, qui va changer d'activité professionnelle. Mais non, mais indépendamment de ça, c'est un mec bien. C'est-à-dire que quand on le connaît.
Il
franchement,
est
c'est un mec qui est agréable. Bon. Ouais.
Et il rend des services.
Il rend service. Ouais, franchement. Donc, et je vous dis, j'ai été le voir plusieurs fois en maison d'arrêt. Non, c'est un mec sympa. Moi, je le connais depuis très longtemps. Nico, si tu m'écoutes.
Bon. Il ferait une ristourne à Mohamed ?
Je sais pas. Faut voir la situation financière de Mohamed. Si, peut-être que Mohamed est blindé. S'il est blindé, il va peut-être même le racketter. Donc, je sais pas s'il faut lui présenter Mohamed.
Ouais, non, ça va aller, merci.
C'est vrai, bon, alors après, c'est vrai que tourner la page, c'est compliqué, ça fait mal, mais bien sûr,
je le dis, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps de tracasserie. Donc, faut se poser la question, est-ce que ça vaut le coup ou pas?
Ok. Mais après, effectivement, ce que je vous disais, moi, je cherche pas de dommages d'intérêt ou quoi que ce soit. Enfin, franchement, j'ai pas besoin de ça. Aujourd'hui, j'ai absolument pas besoin de ça. Ma satisfaction, ça serait juste un rappel à ce monsieur par une institution.
Ouais, mais vous avez bien compris que vous pouvez être hyper déçu.
Ouais,
Si, quand bien même, il y a poursuite, le type a rien.
Et à ce moment-là, vous aurez le sentiment d'avoir été victime d'une injustice.
Ben oui. C'est terrible. Et il pourrait se retourner contre vous, puisqu'on appelle ça une dénonciation calomnieuse. C'est-à-dire que si il y a un procès et il se passe rien, il est relaxé, il aurait le droit de se retourner contre vous et vous seriez condamné automatiquement. Donc, faut faire attention au retour du boomerang.
Mm-hmm. Bon.
Voilà, Mohamed.
Eh ben, écoutez, merci beaucoup.
Merci à vous, Mohamed.
Merci, très bonne journée.
Merci.
Au revoir.
Bien. Mais c'est un vrai sujet, hein, quand on se fait insulter, finalement, qu'est-ce qui nous reste comme outil dans la main ?
Les poings. Moi, je parle du point. Vous savez, on peut pas faire du droit tout le temps. Moi, je dis que il y a certaines insultes quand le type est en face de vous et l'insulte et c'est vous avez les oreilles qui saignent. Mmh. On oublie l'avocat, on oublie la justice, on oublie le tribunal et on règle ça en lui crevant les yeux. Enfin, je sais pas quelque chose. Après, vous êtes condamné. Khlas, c'est pas grave. Mais au moins à ce moment-là, ça fait du bien et ça fait plaisir. Ouais. Voilà, comme ça le type, il recommencera pas. Alors que même s'il est condamné demain ou après-demain, il peut recommencer. C'est quoi une condamnation dans l'absolu ? C'est pas grand-chose dans ce genre de truc. On va pas le taper au portefeuille, ça va pas lui faire mal. Donc non, je crois qu'il faut lui faire mal physiquement. Il faut qu'il sente que vous êtes fâché.
Alors, le président de la République française, invité d'Adil Farkan, tout à l'heure, donc avant le premier tour des élections présidentielles, il vous a écouté tout à l'heure et je sais que le président Emmanuel Macron souhaite répondre à Maître Serral.
D'accord.
Ça sera fait donc tout à l'heure chez Adil Farkan.
Écoutez, j'écouterai également alors.
Voilà, la réponse du président de la République, Maître Serral. On vous retrouve vendredi prochain.
Avec plaisir.
Je vous donne rendez-vous ce soir à 19h dans Ramadan & Co avec l'imam Abdelali Mamoun et toute l'équipe. Passez une très belle journée sur Beurre FM.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.